France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, émission spéciale autour d'Albert Roussel, immense compositeur admiré pour ses œuvres symphoniques, mais dont on connaît moins l'unique opérette, Le Testament de la Tante Caroline, à l'affiche à Paris dans quelques jours. Pour en parler, je reçois Patrice Martinet, directeur du théâtre de l'Athénée, qui évoquera la place privilégiée de la musique dans ses programmes, ainsi que Damien Top, compositeur, chanteur et spécialiste d'Albert Roussel, notre grand homme du jour. Mais c'est d'abord à une grande dame que je voudrais rendre hommage pour commencer.
Il était marchand de poésie, mais il n'avait dans le fond de son cœur ni grand amour ni petit bonheur. Les gens venaient pour quelques sous lui acheter des mots très doux. Quand il aima, c'était son heure. Il ne trouva rien dans son cœur. Il était marchand de poésie. Passait tous les jours de sa vie à écrire des mots d'amour pour tous les gens des faubourgs. Il ne savait pas que les mots vendus, quand on les veut, on ne les trouve plus. Car mots d'amour, robe de mariée, finissent toujours par se faner. Celle qu'il aimait est partie. Celle qu'il aimait n'a pas compris qu'il était marchand de poésie, qui passait tous les jours de sa vie à écrire des mots d'amour pour les amants des faubourgs. La déception, c'est comme la mer, ça ronge la vie à sa manière. Depuis ce jour, on ne dit plus rien. Il vit l'amour dans ses quatre reins. Quand il écrit, tombe parfois une petite larme sur ses gros doigts. Ce n'est qu'un marchand de poésie.
Mick Michel en 1955 avec l'orchestre de Valberg, dans cette chanson qu'elle avait d'ailleurs écrite elle-même comme beaucoup de ses chansons. Elle l'avait créée quelques années plus tôt à l'Alhambra, où elle avait reçu pour cette même chanson un prix en 1949. Mick Michel, qui nous a quittés à l'âge de 97 ans le 16 mai dernier. Je tenais beaucoup à lui rendre hommage et je suis d'ailleurs content que les auditeurs de l'émission précédente vous aient déjà demandé à la chaîne de diffuser le très célèbre Gamin de Paris. Mais elle a écrit bien d'autres chansons, Mick Michel. En plus, c'était une femme adorable que j'avais eu beaucoup de plaisir à rencontrer chez elle, et je pense que je rediffuserai cet été l'entretien donc que nous avions réalisé ensemble.
«
Et puis, dans un genre plus joyeux, je voudrais vous remercier encore, vous tous qui êtes venus mardi soir. Vous étiez des centaines et des centaines pour l'anniversaire d'Étonnez-moi Benoît au studio 104 de la Maison de la Radio. C'était une très joyeuse soirée. Merci à tous les artistes qui étaient sur scène, à la direction de France Musique, à la présidence de Radio France qui était aussi présent pour cette soirée joyeuse que nous allons donc diffuser à l'heure de l'émission le 8 juin prochain. Voilà, tous ceux qui n'étaient pas là pourront donc retrouver l'anniversaire d'Étonnez-moi Benoît, qui avait pour invité d'honneur ce grand monsieur du Music Hall avec lequel nous avons ouvert la soirée. Je vous propose de retrouver cette chanson que j'adore.
C'est bien dommage de travailler chaque jour pour gagner sa vie, faut se lever. Mais pour le reste, heureusement, merci la vie, l'amour, ça fait passer le temps. Il pleut ma mère dans mon grenier, les tuiles, c'est le vent qui les a emportées. Mais pour le reste, heureusement, merci la vie, l'amour, ça fait passer le temps. J'avais des poules au poulailler, c'est le renard qui cette nuit les a mangées. Mais pour le reste, heureusement, merci la vie, l'amour, ça fait passer le temps. Georges, mon ennemi, il a toujours pour moi du sel dans son fusil. Mais pour le reste, heureusement, merci la vie, l'amour, ça fait passer le temps. C'est bien dommage de travailler chaque jour pour gagner sa vie, pour se lever. Mais pour le reste, merci la vie, l'amour, ça fait passer le temps, passer le temps, passer le temps, passer le temps.
Je peux vous dire que quand on le voit, Marcel Amont, on a vraiment l'impression que le temps ne passe pas. Voilà, il chantait déjà au tout début des années 50. Il était là mardi soir pour les 20 ans d'Étonnez-moi Benoît. Et vous le retrouverez donc à cette même heure de l'émission le 8 juin prochain.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais ce matin, je vous l'ai dit, je tiens à rendre encore un hommage, cette fois-ci à un compositeur que j'adore, Albert Roussel. Je l'écoute beaucoup depuis toujours. On connaît évidemment ses grandes œuvres symphoniques, on connaît moins, beaucoup moins l'unique opérette qu'il a écrite, d'ailleurs comme beaucoup de compositeurs de sa génération. Elle est à l'affiche dans quelques jours à Saint-Dizier, puis à Paris, au Théâtre de l'Athénée. Alors pour en parler, je reçois ce matin le directeur du Théâtre de l'Athénée et puis le spécialiste d'Albert Roussel qui est Damien Top, émission donc spécial autour de ce grand compositeur.
Thank you.
Une musique à la fois rythmée, enjouée, c'est le premier mouvement de la petite suite d'Albert Roussel par l'excellent Stéphane Denève à la tête de l'Orchestre National d'Écosse. Bonjour Damien Top.
Bonjour.
On disait parfois dans les années, quand on évoque les années 30, que Roussel était le plus célèbre des compositeurs français, peut-être même pour certains devant Ravel. Et puis aujourd'hui, il faut bien dire que la place de Roussel a énormément diminué. Comment est-ce que vous, qui avez consacré un livre au compositeur, vous analysez ce phénomène?
Oh, je pense que tous les compositeurs de cette époque ont eu leur période de purgatoire.
Oui.
Et il est vrai que Roussel, même de son vivant, ne s'est jamais lui-même mis en avant.
Ouais.
Il préférait toujours que l'on joue la musique des autres et pas la sienne.
Ah oui, il avait cette curiosité, cette générosité.
Absolument.
Oui.
Et surtout la musique des jeunes.
Oui.
Il a été professeur de très nombreux jeunes compositeurs entre deux guerres. Et il a toujours souhaité que les composition des autres soit jouée plutôt que les siennes.
Voilà, en tout cas, il a écrit beaucoup d'œuvres symphoniques qu'on donne quand même encore, qui sont souvent enregistrées, notamment les symphonies, évidemment, mais beaucoup d'œuvres aussi méconnues, dont ce testament de la tante Caroline, auquel vous consacrez de nombreuses pages dans votre livre sur Roussel. Pour vous, c'est une œuvre relativement importante, hein ?
Oui, et justement, j'ai voulu lui accorder cette place parce que, en général, les autres biographes de Roussel évacuent un petit peu cet opus-là en disant ouais. « Oh, c'est de la musique légère, ouais, ça ouais, n'est pas ouais. du grand Roussel. » Et je crois qu'il est important, justement, de réévaluer l'apport de Roussel à la scène.
Ouais, ouais.
En fait, toutes ses œuvres, depuis Le Marchand de sable jusqu'à La Tante Caroline et jusqu'à ce projet, en passant par ce magnifique Padmavati jusqu'au projet du Téméraire, toutes ses œuvres sont des tentatives de fusionner les arts.
Ouais.
Et il y a toujours des éléments très disparates. Par exemple, prenons Le Festin de l'Araignée qui est un ballet, ben vous avez des clowns sur scène.
Ouais.
Prenons La Naissance de la lyre, vous avez à la fois ce mélange du burlesque et presque du trivial avec les grands airs lyriques de la grande tradition d'opéra. Donc il y a cette volonté de mélanger les styles, de mélanger les arts. Et c'est peut-être une des raisons qui explique qu'on ne monte jamais ses œuvres.
Qu'on ne monte jamais ses œuvres. En tout cas, le testament de la tante Caroline va renaître grâce à la compagnie des frivolités parisiennes. Il va être donné dans quelques jours à Saint-Dizier, puis pendant une période un peu plus longue, donc à Paris, au théâtre de l'Athénée. Bonjour Patrice Martinet.
Bonjour.
Dans votre théâtre. Je ne sais pas si vous vous intéressiez à Roussel avant
Absolument.
Ce projet.
Toujours, oui. toujours. Quand j'étais gosse, j'écoutais vraiment volontiers ces symphonies, particulièrement.
C'est vrai.
La troisième symphonie, ce rythme, etc.
Voilà, cheval de bataille des grands chefs d'orchestre.
Des grands chefs d'orchestre, absolument. Mais pour moi, il était supérieur à Honegger, quelque part. Je sais qu'ils étaient en rivalité, que quelque part, le testament de la tante Caroline, c'était pour faire pièce à Honegger, qui avait l'air de dire que Roussel n'était pas capable de créer des choses comme ça.
Ah, voilà.
C'est une curiosité, mais en fait, il n'y a pas d'enregistrement du testament de la tante Caroline. Pas
enfin, y a
encore.
Un enregistrement de la radio que vous allez découvrir
la radio,
ce matin.
Oui, mais pas d'enregistrement en CD, mais il y en aura un très bientôt puisque l'œuvre va être enregistrée à la télé pendant les représentations.
Voilà, c'est une œuvre assez insolente, pleine insolente. De mauvais esprit, on peut
oui,
dire.
Oui,
hein.
C'est le Janis Kiki du XXe siècle. Hein.
Voilà,
oui, c'est ça. Oui.
On peut le rapprocher effectivement de Janis Kiki. Et puis moi, ça m'a rappelé aussi une nouvelle de Maupassant qui s'appelle L'Héritage aussi, où des héritiers sont soumis à une espèce d'obligation cruelle pour toucher enfin leur héritage. Hein, c'est ça.
Absolument. Et puis il y a le testament d'un excentrique de Jules Verne. Enfin, il y a les trois mamans du petit Jésus d'Alphonse Boudard. On peut trouver des correspondances dans énormément d'œuvres du tout le XXe siècle et 19e siècle également. Oui.
Et d'ailleurs, je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet avec cet extrait du premier acte au cours duquel, justement, le notaire annonce aux héritiers de la fameuse tante Caroline, qui était très riche, mais les héritiers ne pensent qu'à la fortune, ils ne s'intéressaient pas du tout auparavant à la tante Caroline, et ils vont découvrir quelles sont justement les clauses du contrat.
Je lègue ma fortune, titre, valeur, coupons, fonds des tableaux à l'eau, meubles, linge, bijoux, voitures et tableaux, biens mobiliers, immobiliers, en nature, en espèces. Je lègue ma fortune au premier fils de l'une de mes nièces.
Mais nous ne l'avons pas.
Si par hasard elle n'en avait pas, je leur donne à chacune le délai de l'année qui suivra mon trépas. Et ce temps révolu, je lègue ma fortune à l'armée du salut.
Mais c'est une infamie.
En qualité d'exécuteur testamentaire, je charge Maître Corbeau de Ratiboise, notaire assermenté à la cour de Pontoise, d'observer strictement ma volonté dernière.
Mais qu'est-ce que ça me donne à moi tout ça? C'est une plaisanterie.
Ceci n'est pas une plaisanterie, madame, mais le testament holographe d'après lequel feu Mademoiselle d'Anjou déclare léguer sa fortune au premier fils de l'une de ses nièces.
Mais ce testament stylographe, là, comme vous dites, ne peut être valable puisque nous n'avons pas d'enfant.
Le cas est prévu. Feu Mademoiselle, votre tante, vous accorde le délai d'une année à compter du décès pour remplir les conditions requises.
Non, mais comment trouves-tu que je la trouve? Ah, moi, j'en reste incompréhensible. Eh ben, Ferdinand, ben dis donc quelque chose, toi.
Ah,
tu restes là comme une ottomane, les genoux hagards, les yeux tremblants.
Attendu que seul le délai de 9 mois suffirait à l'accomplissement du désir de la défunte, je suis obligé, personnellement, de reconnaître la validité de cette disposition testamentaire.
En somme, si j'ai bien compris, c'est un concours ouvert entre ces dames.
Vous l'avez dit, concours équitable, loyal, et je dirais même louable, puisque c'est un encouragement à la natalité.
Et voilà donc un extrait du testament de la tante Caroline, Patrice Martinet.
Je ne l'ai jamais entendu encore, mais je l'avais lu, effectivement, c'est très drôle.
C'est très drôle. Trois filles sont obligées d'avoir faire un enfant, d'autant plus qu'il y en a une qui a fait vœu de chasteté parce qu'elle est versée dans les bonnes œuvres, donc ça ne va pas être simple.
En vrai, c'est très drôle, mais donc très cruel, hein. c'est très cruel comme à l'époque.
Oui, c'est de l'humour noir, on peut dire. Il faut d'ailleurs souligner peut-être, Damien Top, que c'est un personnage très important du théâtre musical de l'époque, qui s'appelait Nino, qui a fait également avec Manuel Rosenthal une célèbre opérette et qui était le beau-frère de Jacques Ibert, je crois, qui a écrit donc ce livret. Hein.
Absolument, Pierre Weber.
C'était son vrai nom. Qui était le frère de Serge Weber, je crois, une grande famille de spectacles. Et donc c'est lui qui a signé ce livret plein de jeux de mots et de
qui est très caustique, hein, puisque toute cette pièce est une dénonciation féroce de la bourgeoisie de l'époque. Hein.
Voilà, c'est ça. Oui. Alors, en tout cas, on va redécouvrir. L'intrigue est drôle, on se laisse porter. Et on sent Albert Roussel assez à l'aise, dans un genre de musique fantaisiste qui n'était pas forcément ce qui prédominait dans le reste de son œuvre, en tout cas.
Détrompez-vous. Moi, je trouve que justement, il y a énormément d'humour dans toute la musique de Roussel, notamment dans les scherzi, qui nous rappellent les kermesses de Flandre.
Ah oui, dont il était originaire.
Il est originaire de Tourcoing. Ouais. Et il a toujours baigné, du moins dans la première partie de sa vie et son enfance, il a baigné dans cette musique légère, dans cette musique de salon. Et ce n'est que par la suite, en démissionnant de la marine, qu'il a embrassé cette carrière de compositeur beaucoup plus savant et sérieux.
Il a passé quand même par l'enseignement très sérieux de Vincent d'Indy.
Absolument, mais on savait s'amuser à la Scola aussi.
Hein. Aussi, on a écrit des opérettes d'ailleurs.
Ben d'Indy a écrit une opérette aussi.
Absolument, c'était la tendance, on peut dire, de ces compositeurs de l'entre-deux-guerres, que d'aller s'essayer au moins une fois à la musique légère, au fond.
Oui, ça c'est très caractéristique dans toute l'œuvre de Roussel.
Patrice Martinet, en tout cas, merci d'être avec nous aussi ce matin, parce que vous donnez une grande place depuis longtemps à la musique dans votre programmation de l'Athénée. On va y revenir dans un instant. Mais tiens, vous nous disiez que vous écoutiez Roussel depuis toujours. Vous avez plutôt une formation de littéraire à l'origine, mais c'est quoi les souvenirs musicaux de votre enfance, de votre famille?
En France, c'est Karajan au Théâtre des Champs-Élysées.
C'est la musique classique, le grand répertoire.
C'était la musique classique, Oui, j'étais beaucoup plus intéressé à l'époque, il ne faut pas trop le dire, il ne faut pas le répéter.
Non, mais vous avez le droit, même dans cette émission.
Par la musique, le théâtre, j'allais tellement volontiers...
Plus par la musique que par le théâtre.
...au concert que mes parents m'avaient interdit d'y aller plus de 2 fois par semaine. Je trichais un peu, j'allais 3 fois par semaine au concert, quand j'avais 12 ans.
Ah oui.
Et au théâtre, j'y allais... Bon, le théâtre, à l'époque, c'était la Comédie Française, c'était des choses qui ne m'excitaient pas vraiment.
Voilà.
À vrai dire, je me suis même mis dans la tête d'apprendre un instrument. J'ai travaillé l'orgue pendant des années.
Donc vous ne prépariez pas votre destin de directeur de théâtre?
Pas du tout. Et en fait, il y a eu une rupture en mai 68, à la fois quand mon professeur d'orgue m'a jeté dehors en disant disant je ne reçois plus les enragés. Et puis aussi quand j'ai découvert Luca Ronconi, quand j'ai découvert
un nouveau théâtre,
Ariane Nouchkine, etc. Donc ma carrière en quelque sorte a évolué vers le théâtre, mais je suis revenu vraiment volontiers à la musique à l'Athénée, parce que l'Athénée est un lieu où la musique sonne de façon tout à fait particulière. On a fait de gros travaux il y a 2 ans pour agrandir la fosse d'orchestre et pouvoir accueillir les frivolités parisiennes à 30 par exemple dans la fosse, c'est important.
On va revenir alors à cette programmation extraordinaire, mais on peut quand même dire que à côté de Karajan, je crois que vous avez quelques faiblesses, par exemple dans le domaine de la chanson pour certains artistes.
Patinait merveilleusement, s'élançant impétueusement, arrivant si joliment, vraiment. Fin comme une grande jeune fille, brillant, vif et fort, telle une aiguille, la souplesse et l'élan d'une anguille. Des jeux d'optique prestigieux, un tourment délicieux des yeux, un éclair qui serait gracieux. Parfois il restait comme invisible, vitesse en route vers une cible, si lointaine elle-même invisible. Invisible de même aujourd'hui, que sera-t-il advenu de lui? Que sera-t-il advenu de lui?
C'est aussi l'occasion pour moi de donner un coup de chapeau à ce grand arrangeur qu'est Jean-Michel Defaille dans toute cette époque de Léo Ferré. Vous avez entendu cette orchestration sublime sur ce poème de Verlaine chanté par Ferré. Oui, moi je croyais, Jean-Louis Martinet, que vous aviez plutôt commencé au Centre culturel de Milan et puis au Festival Paris-Quartier d'été à présenter plutôt des œuvres classiques ou contemporaines, mais vous êtes aussi occupé de chansons.
Ben oui, à Milan, j'ai fait tourner Léo Ferré par amitié, d'une certaine façon. C'était sa traversée du désert, on ne voulait plus l'entendre.
Une traversée du désert, vraiment.
Léo Ferré traversée du désert. Il s'est établi en Italie, il était tout proche, on se voyait souvent, mais plus personne.
C'était dans les années 80.
Dans les années 80, absolument. Et on a organisé des tournées, mais de façon tout à fait amicale. Je me souviens, chez mon collègue de Berlin-Est, Léo a chanté devant le Politburo de l'époque. Léo, surtout, ne chante pas les anarchistes, non, surtout pas. Et il a chanté les anarchistes, les officiels tordaient le nez un petit peu, mais enfin, ça s'est passé très bien. Non, c'était une...
Personnage pour le moins controversé aujourd'hui, enfin, quand on évoque sa vie compliquée,
oui, bien sûr, c'était un artiste, un vrai, un grand artiste.
Une grande
générosité artistique et humaine, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le connaître.
Mais vous êtes aussi, dans ces mêmes années, beaucoup passionné pour la musique contemporaine française.
Bien sûr. Je suis éclectique. Oui. Peut-être un peu moins que vous, parce que je n'irai pas jusqu'à Marcel Amont, par exemple, mais je me sens tout à fait à l'aise avec la chanson française, celle-là, et puis la musique contemporaine, Pierre Boulez, par exemple, ou Pierre Henry.
Bien sûr. Et c'est aussi dans un esprit d'éclectisme que vous avez fondé le festival Paris Quartier d'été dans les années 1990.
Voilà, c'était la même idée. C'était un modèle d'éclectisme qu'on a voulu comme tel, c'est-à-dire rassembler aussi bien Merce Cunningham que des spectacles de cirque ou autres. C'est-à-dire la qualité avant tout, mais la qualité chacune dans son genre, c'est-à-dire l'ouverture et le fait d'aller vers les spectateurs. Non, c'est une période de ma vie magnifique, 27 ans qui s'est terminée. Le festival a disparu, en fait, disons, son nom a changé, donc le projet a changé aussi. Et je suis très très fier d'avoir pu créer ce festival.
Et puis donc, vous êtes arrivé à la direction du théâtre de l'Athénée, Louis Jouvet, comme on dit, parce que ça a été le théâtre de Louis Jouvet, il faut le rappeler.
Absolument. Absolument. Et je l'ai trouvé dans ce théâtre. Il était en fait mal entretenu. Le théâtre à l'italienne qu'il était méprisé par la plupart des directeurs de théâtre.
Ah oui, ce genre de salle était mal vu à l'époque.
Mal vu. Je dirais pas que c'est fini d'ailleurs, mais quand même, on a réussi à redresser un peu la barre pour le théâtre de l'Athénée, pour les théâtres de qualité qui présentent effectivement dans des contraintes qui sont particulières. C'est, le théâtre à l'italienne, c'est une contrainte, c'est rien d'autre que ça. Et c'est en même temps un plaisir d'écoute, bien sûr.
Mais c'est un théâtre, il faut dire, qui, comme la plupart des théâtres qu'on dit de boulevard, avait été un théâtre musical, notamment dans l'entre-deux-guerres et au début du XXe siècle, on y donnait aussi beaucoup d'opérettes. Hein.
Sa naissance a été une naissance musicale, en fait. On peut dire que l'Eden Théâtre dans lequel il a été construit, c'était un théâtre voué à la musique.
Oui, c'est ça.
Où ont eu lieu les concerts populaires de Padeloup, etc. C'était un lieu... Bon. Après ça, l'Athénée a porté le flambeau. On a eu à l'Athénée, par exemple, Loïc Fuller, qui a dansé avec musique de Gabriel Pierné sur une Salomé. Ouais. On a eu beaucoup de musique, même du temps de Jouvet, qui était un grand amateur de musique.
De musique,
qui demandait à Jacques Ibert, qui demandait à Francis Poulenc, des musiques de scène, qui étaient diffusées par des phonographes. On a fait un jour un colloque là-dessus, c'était une chose assez extraordinaire, les phonographes de Jouvet, pour passer les galettes que nous avons encore de cette musique qui avait été commandée pour les pièces.
Alors la musique, elle a repris ces dernières années sous votre influence, une place très très importante dans la programmation. On va y revenir tout de suite, mais je propose qu'on écoute ensemble peut-être un extrait d'un des spectacles musicaux que vous allez donner au cours de la saison prochaine, sur laquelle on va revenir. Et je trouve que c'est une très belle œuvre, une très belle initiative. Ce sera en fin de saison, c'est Cendrillon d'Izoard, compositeur oublié, qui sera donné sous la direction de Julien Chauvin, d'après le conte de Perrault. Comment vous êtes tombé là-dessus? Enfin, j'imagine les musiciens sont venus vous le proposer aussi.
Mais... Alors, les musiciens sont venus nous proposer ça, c'est le Palazzetto Bruzane qui nous a proposé ça, qui fait ses recherches de musique. Alors, à vrai dire, je ne connaissais pas l'œuvre, mais on m'a proposé deux productions.
Oui.
L'une qui était née à Malte, comme Izoard d'ailleurs, et l'autre qui va naître, qui est née à, je crois, à Saint-Étienne il y a très peu de temps. Et évidemment, ça m'a intéressé parce que le mythe de Cendrillon est magnifique et il y a toutes ces variantes. Alors, c'est la version Perrault. Oui. J'ai eu l'occasion, d'après Carte d'été, d'inviter la version Basilée, hein, oui. Très napolitaine, très crue, oui. Etc. Oui. Donc, je me suis dit, on va faire ça aussi. On va faire ça aussi.
Ah, bah écoutez, alors pour le coup, ça m'a fait plaisir parce que j'ai trouvé un très bel enregistrement d'un duo qu'on va entendre maintenant et qui montre tout le côté brillant, séduisant de cette musique d'opéra comique.
La 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 la
Jody DeVos et Caroline Meng dans ce duo extrait donc de la Cendrillon d'Izoard, à découvrir au cours de la saison prochaine du Théâtre de l'Athénée. Ce sera par le concert de la Loge sous la direction de Julien Chauvin. Et c'est un des nombreux spectacles musicaux qu'on va évoquer ce matin. Pour rester d'abord d'ailleurs dans le genre un peu léger, il y aura également une nouvelle production de Yes de Maurice Yvain par Les Brigands. C'est les Frivolités, elles avaient monté cette œuvre de leur côté. Et là, vous l'avez confié aux Brigands, qui sont un peu les associés historiques de la tenue dans le
Alors, les Brigands, canal historique, parce qu'en fait, il y a eu des Brigands, canal habituel, etc. on est vraiment, on revient avec les Brigands,
la compagnie Les Brigands,
Emmanuel Goizet, Gilles Bugeaud, etc. Voilà, qui ont fait vraiment les beaux
nombreux à applaudir depuis Tabouche, une quantité d'opérettes.
Toi, c'est moi là-bas. Déjà avec Maurice Yvain et Villemetz. On revient à leur grand succès avec Yes. C'est une œuvre assez marrante, Yes, quand même. Cette pauvre personne de sexe féminin qui se trouve à Londres et qui ne sait dire qu'un seul mot en anglais, qui est Yes. il lui arrive évidemment bien des misères. Voilà, et ça va être traité de façon comique.
Ce sera à la fin de l'année pour la période des fêtes. Mais vous nous disiez donc que c'était un théâtre qui avait une grande histoire musicale. On peut évoquer aussi rapidement une grande figure qui a été avec vous à l'origine du renouveau musical de l'Athénée, c'était Pierre Berger.
Oui, avant moi, bien sûr, parce que Pierre Berger était directeur de ce théâtre. Il était le directeur pendant 4 ans et il a fait des tas de choses magnifiques qu'on se plaît à citer, mais surtout ce qui est resté, c'est les lundis musicaux qu'il a, il a continué après la fin de sa direction, puisqu'il a pris l'Opéra Bastille en 89 et il a commencé les lundis musicaux, je pense, en 75, de 75 à 89, et c'était des saisons magnifiques avec qui n'a pas chanté pour les lundis musicaux de cette période-là, je crois, Dietrich Fischer-Dieskau et Maria Callas, et puis guère plus. Et
c'était tout le monde est venu.
Tout le monde est venu. Alors, ça s'était éteint avec, effectivement, lui à l'Opéra de Paris, quand il était président de l'Opéra de Paris. Nous avons relancé la chose il y a quelques années avec Alphonse Semain, qui est devenu directeur musical et artistique des lundis musicaux, avec évidemment les moyens moindres que ceux de Pierre Berger, même si nous avons trouvé une mécène, personne de
Caroline Blaber. Mais pas une maison de couture sous la main.
On a Caroline Blaber qui nous aide et qui nous permet de faire effectivement une saison avec 4-5 concerts, mais le choix est de jeunes artistes dont on annoncera les noms que dans quelques jours.
Mais alors, pour en revenir à ce qui m'intéresse plus directement, là, cette place donc de l'opérette et du théâtre musical léger à l'Athénée, qui a commencé, sauf erreur, avec les Brigands, et qui a permis aussi de réutiliser cette fosse pour faire vraiment du spectacle musical, c'est venu comment? C'est une discussion avec le ministère de la Culture, disant on manque d'un théâtre musical à Paris, c'est juste une suite de rencontres, de hasards, et puis ça a marché, vous avez eu envie de continuer?
Non, c'était un désir. En fait, on a découvert la fosse d'orchestre. On ignorait au moment de la grande campagne de rénovation il y a 20 ans. Oui. On ignorait qu'il y avait une fosse d'orchestre dans ce théâtre. On l'a découverte, elle était petite. On s'est dit comme ça sur le champ, il faut la remettre en service et l'agrandir si possible. Ce qu'on a fait. Et ça a tellement bien marché dès alors que le ministère de la Culture a voulu nous aider à agrandir la fosse d'orchestre qu'on a fait à l'occasion de la campagne de travaux d'il y a 3 ans maintenant. Et c'est vrai qu'on a maintenant une fosse d'orchestre avec pour 30 à 40 musiciens, c'est tout à fait exceptionnel dans un petit théâtre. Oui. Avec l'acoustique de cette salle, c'est devenu un outil formidable. Mais le ministère de la Culture nous accompagne en investissement, nous accompagne moins en soutien, parce que la création musicale est plus onéreuse. Donc c'est pour ça que nous avons proposé un projet de fondation avec des mécènes qui permettront d'avoir un niveau au niveau de la création dramaturgique mais aussi de la création musicale, et surtout de la création musicale, de plus élevé. Et nous avons une mécène américaine qui nous donnera une somme extraordinaire dès que la fondation sera créée.
Parce qu'on dit toujours effectivement que si les théâtres musicaux ont arrêté de faire des spectacles musicaux, c'est que ça coûte évidemment beaucoup plus cher que de faire du théâtre.
Et donc une mécène américaine qui nous donne 700 000 euros par an pendant 5 ans, donc ça permet de voir venir, il faut que le ministère de la Culture donne son feu vert.
Et l'orientation vers l'opérette, dont on sait, dont on se lamente qu'elle n'est pas théâtre à Paris, c'est une volonté précise qu'il y ait un lieu à Paris qui puisse donner de ce genre de spectacle si nombreux autrefois.
Pour être précis, c'est pas une orientation vers l'opérette, c'est une orientation vers le théâtre musical. Oui. Le théâtre musical, toute forme, c'est-à-dire une petite forme d'opéra. On vient de terminer une série de représentations de l'importance d'être constant, la pièce de Gérald Barry. C'est magnifique, mais c'est du théâtre musical, c'est pas de l'opérette.
Vous en avez une par an, au moins.
Au moins une par an.
Voilà, c'est déjà beaucoup dans la situation actuelle.
Oui, absolument, absolument. Et nous y tenons beaucoup.
Et vous y tenez beaucoup. Et donc la prochaine, ce sera le testament de la tante Caroline,
dès la semaine prochaine.
Et je propose qu'on réécoute un deuxième extrait donc de ce testament de la tante Caroline. Là, les protagonistes sont devant le coffre de la tante Caroline, dont ils demandent à une employée la combinaison. Et on va le voir. C'est vraiment de l'opérette et en même temps, il y a une espèce de machine rythmique derrière qui est tout à fait roussélienne.
Ce Seigneur que l'on vous offre, ma chère enfant, recueillez-vous et livrez-nous la clé du coffre. Ne craignez rien, répondez-nous. Si ma mémoire m'est fidèle, il faut d'abord, je me rappelle, tourner par quatre fois la manette du haut et l'arrêter devant.
Devant.
Devant le numéro.
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 Le numéro. Le numéro. Le
numéro. Oh, l'étrange, l'étrange, l'étrange combinaison que celle de ce coffre fort.
C'est en fait que nous pesons,
que nous pesons sur nos ressorts.
Malgré tous nos efforts, la gâchette,
et malgré tous nos efforts, la gâchette tient encore.
Mais que devons-nous faire ensuite, ma chère enfant, rappelez-vous.
Le temps nous presse, dites vite, ne craignez rien, répondez-nous.
Peut-être ensuite faut-il mettre le repère devant la lettre, mais veuillez m'excuser, vraiment je ne sais plus si c'est là, si c'est li,
S-A,
si c'est long, si c'est lu,
S-O,
S-U,
S-U,
S-O,
S-O,
S-U,
S-O,
S-U. Ma foi, je ne sais plus.
Oh, l'étrange combinaison, que celle que ce coffre fort.
C'est en fait de bien besoin
que nous pesons sur nos ressorts.
Et malgré tous nos efforts,
la gâchette,
et malgré tous nos efforts,
la gâchette tient encore.
Le testament de la tante Caroline, toujours un extrait du premier acte dans cette version enregistrée par le service lyrique de Radio France le 4 mars 1962 sous la direction de Marcel Carivène. Vous ne connaissiez pas cette version, donc Patrice Martinet, voilà, ce sont nos trésors qui nous permettent de voyager dans le temps. Et je précise encore que donc cette tante Caroline qui sera donnée pour la première fois le 2 juin dans le joli petit théâtre de Saint-Dizier et ensuite toute la semaine suivante
au 13.
À l'Athénée sera donné donc par la Compagnie des Frivolités Parisiennes. Donc les brigands sont vos partenaires historiques, mais aujourd'hui vous êtes ouvert dans ce domaine et dans d'autres à d'autres compagnies fonction des projets qui vous intéressent en somme.
Absolument.
Voilà, le testament donc de la tante Caroline de Nino et Albert Roussel. Vous connaissiez vous cet enregistrement, Damien Thorpe?
Oui, parce que j'en ai quelques-uns d'enregistrements de la tante Caroline. Il n'y en a pas énormément, bien entendu.
Non.
Mais bon, ce sont souvent des versions pirates ou privées. Hein.
Voilà, c'est ça. Et vous êtes plongé là-dedans et dans beaucoup d'autres œuvres pour écrire un très beau livre sur Albert Roussel aux éditions Bleu Nuit. Et on va comprendre que c'est une de vos nombreuses passions musicales, notamment pour des compositeurs parfois un peu négligés. Damien Thorpe, à l'origine, vous êtes musicien, chanteur, compositeur.
Non, à l'origine, en fait, j'ai le parcours un peu inverse de notre ami. C'est que j'ai commencé par faire du théâtre et ouais. Je voulais donc faire une carrière de comédien. Donc, j'ai intégré le Conservatoire d'art dramatique à Lille. Et ce n'est que vers 19 ans que j'ai bifurqué et que j'ai commencé à faire de la musique.
Ah
et
oui.
En fait, ça a pris après, bien sûr,
c'est vraiment le contraire de
toute ma passion. Et j'ai continué, voilà, à m'intéresser, c'est vrai, par curiosité, à tous ces compositeurs dont on entendait de temps à autre les noms, mais que personne ne connaissait.
Vous êtes passé quand même par la classe, on peut le signaler, elle était d'ailleurs mon invité mardi dernier, classe de Nicole Broissin, d'opérette du Conservatoire
absolument, absolument,
de Paris.
Et j'ai fait beaucoup d'opérettes, j'ai fait beaucoup de musique légère aussi, même si je me consacre... Plus à la musique savante.
Mais alors, je suis très impressionné par votre engagement dans effectivement ces différentes causes musicales, je dirais mémorielles. Hein. Vous présidez le cercle Paul Paré, vous êtes membre de l'association Joseph Canteloub, de l'association des Amis d'Émile Gouet, compositeur très oublié de l'entre-deux-guerres. Vous êtes à la Lotte Lehmann Fondation, etc., etc. Oui. C'est quand même voilà une orientation vers la redécouverte.
C'est une volonté d'explorer justement les univers de tous ces compositeurs qui nous révèlent de très agréables surprises et qui ont une qualité d'écriture remarquable.
Émile Gouet, par exemple, plus personne ne sait qui était Émile Gouet.
Non, bien sûr. Et Claude Delvincourt non plus. Il est un peu passé à la trappe. On essaie de le ressusciter par les concerts et les enregistrements.
Pour Albert Roussel, c'est un petit peu plus facile, mais néanmoins...
Je dirais pas à l'époque où je m'y suis intéressé, dans les années 80, parce que je me souviens de certains profs du conservatoire qui connaissaient le nom, mais qui ne connaissaient pas du tout sa musique.
Ah oui.
Donc ça m'interpellait beaucoup. Et je me suis dit, où les histoires de la musique le présentant comme un des quatre grands compositeurs français du début du XXe siècle...
Donc les trois autres étant Debussy,
Ravel et Fauré.
Et
donc je me disais, où il y a une erreur, une injustice dans l'histoire de la musique. Donc voilà, j'ai voulu faire ma propre enquête. Et finalement, j'ai fait comme Obélix, je suis tombé dans la marmite.
Voilà, et vous êtes passionné pour Roussel, auquel vous avez d'ailleurs consacré un festival.
Hein, oui, donc depuis plus de 20 ans, nous organisons le Festival International Albert Roussel, où nous faisons découvrir non seulement sa musique, mais aussi toute la musique de ses élèves, de ses disciples, des personnes qui gravitaient autour de son esthétique.
Et la prochaine édition
Elle commence mi-septembre jusqu'à mi-novembre.
Et ça se passera précisément
donc dans le Nord Pas-de-Calais, en Belgique, un peu à Paris.
Alors voilà, donc un grand événement pour les Rousseliens. On va y revenir d'ailleurs, mais en faisant un petit détour par Pierre Etex et Errol Garner. Dites-nous en quelques mots.
C'est une de mes grandes fascinations de jeunesse. Quand j'ai découvert les films de Pierre Etex, je suis tombé amoureux de cet univers et il m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui.
Et Misty, ça a un lien direct
C'est une de ses chansons préférées.
De Pierre Etex. Vous avez connu bien personnellement ensuite Voilà, alors on écoute, en pensant à Pierre Etex, le très joli Misty d'Errol Garner.
Merci beaucoup. Thank you.
encore une autre illustration de l'éclectisme dont parlait Patrice Martinet, mais là c'est l'éclectisme de Damien Top que je reçois ce matin pour son livre sur Albert Roussel à l'occasion de la production du testament de la tante Caroline donc à Paris dans quelques jours. Il faut peut-être rappeler en quelques mots, Damien Top, que en gros, généralement, on divise l'œuvre de Roussel, compositeur, en deux grandes parties. Une partie qui est plutôt celle du tout début du XXe siècle, où il est encore un peu dans le sillage qu'on qualifie parfois d'impressionniste de Debussy. Et puis une musique beaucoup plus moderniste, dite néoclassique, dans les années 1920-1930.
Hein. Absolument. En fait, c'est la coupure de la Première Guerre mondiale hein, qui a affecté tant de compositeurs, qui a un peu fait basculer Roussel dans un nouveau style. Il disait lui-même, il va falloir recommencer à vivre et en fait rebâtir une nouvelle civilisation. Et jusqu'alors, il avait surtout été influencé par Vincent d'Indy, les grandes orchestrations de la première symphonie, seconde symphonie, Padmavati, tout ça, c'est l'esthétique de Vincent d'Indy du 19e. Et ensuite, eh bien, il va s'ingénier à épurer son style, à aller vers quelque chose de beaucoup plus percutant, incisif.
Il a quand même cet instinct rythmique exceptionnel qui sa marque de fabrique,
évidemment,
presque, on peut
dire, hein. Et qui éclate dès le divertissement opus 6, hein, qui anticipe déjà Stravinsky.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est dans ces années 30, en fait, qu'il devient réellement un chef de file à l'échelle française et internationale de la jeune musique.
Oui, surtout avec l'éclatement que constitue cette suite en fa, la troisième symphonie. Là, il est vraiment au summum de sa réputation internationale et il est joué dans le monde entier.
Voilà, alors justement, à propos du monde entier, c'est dans cette période-là aussi qu'il écrit donc le testament de la tante Caroline, qui va être créé d'ailleurs à Olomouc, donc en République tchèque, enfin à l'époque en Tchécoslovaquie, oui, avant même d'être donné à Paris.
Oui,
alors
ça, c'est
un peu la genèse de cette œuvre.
Donc ça, c'est en 31-32, Roussel écrit cette opérette, il en termine l'orchestration en 33, et c'est grâce à une de ses élèves tchèques, Julia Reiserova, qui était aussi la femme d'un diplomate. Donc à chaque fois que son mari changeait de pays, elle organisait dans le pays en question un festival Roussel.
Ah oui, d'accord.
Et donc voilà, donc elle a eu l'occasion de pouvoir convaincre le théâtre d'Olmütz de monter cette pièce, et c'est la raison pour laquelle ça a été créé là-bas en version tchèque. Donc
voilà, et ce sera donc ensuite seulement repris à l'Opéra Comique, à l'initiative, je crois, de Jacques Rouchet.
Voilà,
mais avec quand même un plateau, si j'ose dire, assez intéressant, puisque c'est Georges Pitoëff qui assure la mise en scène.
La mise en scène.
Rappelons qui était Georges Pitoëff.
C'était un grand homme de théâtre de cette époque-là. Et c'est vrai que le plateau qui est réuni pour l'occasion rejoint ce que je vous disais tout à l'heure en ce qui concerne l'éclectisme et le caractère hybride de la production roussélienne. C'est qu'on avait des jeunes qui débutaient, dont c'était le premier rôle, je pense à Paul de Rennes, le ténor.
Ah oui, d'accord.
Il venait de gagner un concours, et donc on l'a appelé, on lui a dit, bon voilà, allez voir Roussel, il cherche un ténor, et c'est comme ça qu'il a été engagé. Il y avait bien sûr quelques artistes de la maison, mais il y avait aussi des vedettes du music-hall et du café-concert, comme Suzanne de Hely.
De Hely, par exemple, voilà, exactement.
Donc on avait là encore une distribution très très mélangée.
Et l'œuvre alors a plutôt déconcerté, hein, il faut dire.
Complètement, complètement. Ouais. Déjà par son sujet, puisque voir sur scène une clinique d'accouchement pour filles-mères et des personnages donc comme les nièces qui se précipitent pour acheter un enfant, c'est-à-dire qu'on est là déjà dans le système, dans la dénonciation de la traite des humaines.
De l'être humain.
Voilà, c'est terrible. Et donc on a énormément de choses qui ont déplu. Et voir sur scène des femmes enceintes à l'époque, c'était scandaleux.
Ah oui.
Même si elles n'étaient symbolisées que par un ruban rose sur le ventre. Hein. Donc il y a énormément de aussi les décors hein, qui ont beaucoup beaucoup défrayé la chronique, puisqu'on se demandait pourquoi il y avait trois grandes marches avec des grands tabourets de bar alors que tout le monde s'asseyait par terre. Enfin, il y a des choses quand même qui étaient dans cette avant-garde voulue par Pitoëff qui ont complètement déconcerté le public de l'Opéra Comique. On attendait Roussel et les artistes pour les huer à la fin des représentations, et un appariteur Voltaire faisait sortir Roussel par une porte dérobée. Enfin, il y a toute une histoire.
Peur, Patrice Martinet, là, vous tremblez.
Attendez, je termine avec le meilleur, c'est que les artistes musiciens dans la fosse ont écrit une pétition au ministre de la Culture pour voir retirer de l'affiche cette pièce déplacée. C'est la seule opérette de l'histoire qui est, entre guillemets, bénéficié d'une telle pétition.
Mais alors, ça prouve qu'il se passait quelque chose.
Ah oui, non, ça a été donc très fort. Voilà, ouais. Et je crois que c'est cette force de l'opérette qu'il faut. J'espère que vous la représenterez avec toutes ce mordant.
C'est bien notre intention.
Je vous en remercie.
Vous n'avez pas peur du scandale, Patrice Martinet?
Non, mais il y a de bons scandales. Là, vous disiez que les femmes enceintes n'étaient pas bienvenues sur les plateaux d'opéra, mais c'est pas tout à fait fini. Notre amie Julie Fuchs, à l'opéra de Hambourg, s'est vue interdire de jouer parce qu'elle était enceinte.
Ah oui, exactement.
Elle a fait un procès, elle l'a gagné. Tant mieux pour elle. Et j'espère que ça ne nuira pas à sa carrière, c'est tout.
Alors, on va retrouver, alors d'abord, un document exceptionnel parce que on a très peu de compositeurs de cette envergure et de cette époque dont on puisse retrouver la voix. Et il se trouve qu'on a la voix, c'est quelques secondes, mais la voix d'Albert Roussel. Et puis, tout de suite après, un troisième extrait du Testament de la Tante Caroline. C'est justement la fin du premier acte où les héritiers de la Tante Caroline commencent par dire qu'ils vont attaquer pour dénoncer le testament. Et puis, finalement, se résolvent à ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire faire un enfant, vite un enfant. C'est les paroles du moins de ce chœur final.
L'œuvre que je viens de diriger se compose de fragments symphoniques du ballet de l'Araignée, le ballet de Festa de l'Araignée, sur l'argument de M. Gilbert de Voisin, dont la première représentation a eu lieu en avril 1913 au Théâtre des Arts.
J'attaque !
Attaquons !
Attaquer !
Attaquer quoi ?
Le testament !
Mais pourquoi ?
Mais comment ? Le testament est apocryphe.
Voici sa griffe et son paraphe. La signature en est truquée.
La signature est véridique.
Et l'écriture est démarquée.
Et l'écriture est identique. Le testament est authentique.
Nous attaquons.
Seule la demande, opposition, assignation, dénonciation, récondition.
Nous attaquons.
Seule la demande, un témoignage, un arbitrage, un départage, ce dans l'usage.
Nous attaquons.
Seule la demande, procédure, magistrature, signature, et cela dure.
Nous attaquons.
Oui, seule la dure et peut durer encore. Quand vous serez mort et enterré.
Nous attaquons.
De l'air! C'est une attaque de nerfs!
Je vais ouvrir pour la Pérouse une clinique d'accouchement. Messieurs, j'invite vos épouses à m'y rejoindre commentement.
Il a raison.
À cheval, vite en selle, au galop.
La chute d'avoir vite un enfant.
Rassemblez votre courage, à l'avant,
la fin du premier acte du testament de la tante Caroline d'Albert Roussel sur un livret de Nino, œuvre très très tonique. J'espère que ça vous donnera envie d'aller la découvrir dans quelques jours à l'Athénée. Damien Top, je ne vais pas vous demander de faire la liste des œuvres prioritaires à redécouvrir de Roussel, mais j'imagine qu'il y en a bien quelques-unes qui vous viennent à l'esprit après le testament de la tante Caroline.
Alors, à redécouvrir ou à découvrir, il faudrait quand même qu'on entende un de ces jours la naissance de la lyre.
Oui.
Cet opéra de 1925. Puis, bien sûr, il y a Padmavati, il y a
Énéas,
le marchand de sable qui passe, que nous allons remonter aussi prochainement.
Qui fut créé au Havre.
Voilà, texte et musique.
Oui.
Et que nous avons donné récemment aussi à l'École normale de musique, à la salle Cortot, pour le jour même de l'anniversaire de Roussel. Enfin, il y a énormément de choses, il faut tout redécouvrir de Roussel.
Est-ce qu'on peut voir encore aujourd'hui la belle villa normande de Roussel,
oui,
près de Varengeville, où il est enterré?
Vaste-Rival existe toujours,
c'est
une propriété privée, mais on peut visiter les jardins
et voir
qui sont magnifiques.
Donc le très beau tombeau d'Albert Roussel
dans
au
cimetière
marin de Varengeville.
Oui, à côté de Braque et de Porto-Riche.
Voilà, une promenade que je vous recommande. Patrice Martinet, je l'ai mis en avant évidemment puisque c'est le sujet même de mon émission. La musique légère sera présente donc l'année prochaine donc dans votre programmation de l'Athénée, avec d'ailleurs aussi une œuvre de John Adams qui est pratiquement de l'ordre de la comédie musicale.
Absolument, hein. C'est une comédie musicale.
I was looking at the ceiling and then I saw the sky.
Oui, absolument.
Voilà.
Musique minimaliste américaine, mais alors tout à fait riche et tout à fait intéressante. Et défendue par de très jeunes artistes, très jeunes musiciens et chanteurs.
Et puis la création musicale contemporaine avec un opéra comique, pour le coup, d'un compositeur que j'aime beaucoup, Guillaume Connaisson.
Oui, on ne dit plus opéra comique puisqu'on a avancé, on s'appelle opéra polar maintenant.
Opéra polar.
C'est une nouvelle dénomination de l'objet.
L'objet qui a commencé dans une autre maison et qui finalement va être monté par les frivolités parisiennes chez vous.
Chez nous, au mois de janvier, oui.
Voilà, avec également les Apaches, le nouveau groupe de jeunes compositeurs de la nouvelle avant-garde peut-être.
Absolument,
qui seront accueillis également à l'Athénée.
Au groupe des Apaches autour de Maurice Ravel, bien sûr, et là autour de Julien Masmondé qui a eu cette idée magnifique.
Voilà, avec
très
jeune musicien, Savaro, aussi, Jules Maton, Fabien Touchard, Fabien Cali et d'autres.
Des jeunes compositeurs, des jeunes musiciens, des jeunes interprètes aussi. C'est vrai que on attend beaucoup de cette relève des Apaches, nouveau genre.
Voilà, donc une programmation très riche pour la musique à l'Athénée, qui est vraiment devenue un théâtre musical pour quasiment la moitié de ses levées de rideaux.
Oui, une bonne moitié.
Vous allez continuer dans cette même voie.
On continue, on le souhaite et on va le faire. La saison prochaine a beaucoup, la saison suivante a encore beaucoup de projets musicaux.
Avant de se quitter, dites-nous, vous nous avez apporté un document étrange et beau et touchant. Vous nous en dites peut-être quelques mots, on va en écouter une minute, parce que...
Une minute, ce sera bien court, mais alors si vous voulez, je mettrai le document dans son intégralité sur le site de l'Athénée pour qu'on puisse l'entendre.
Oui.
Alors c'est mon coup de cœur, c'est mon émotion très très forte de la semaine. J'étais à Zurich pour suivre le travail d'une compagnie berlinoise, Hauen und Station, qui nous a apporté une variante de Carmen. Alors cette compagnie revisite le répertoire à sa façon. Et là, elle revisitait Tristan et Isolde, avec une compagnie de jeunes porteurs de handicap mental, c'est-à-dire des autistes, et vraiment des artistes qui sont... Et ils nous jouent Liebestod de Wagner, et d'une façon très étrange, et je vous demande d'écouter sans préjugés.
Freude, sehr.
Vous nous redites Jean-Louis Martinet.
Oui, Patrice Martinet, la compagnie Howend und Station et le théâtre Aura, avec des jeunes trisomiques et autistes qui s'emparent comme ça de la musique de Wagner, et c'est une émotion formidable, qui est une émotion artistique et pas une émotion sociale ou politique. Et je crois que cette compagnie mérite de passer à Paris, on essaiera de les inviter.
Merci de nous la faire découvrir, c'est effectivement un document très saisissant et touchant. Pardon pour Jean-Louis Martinet, je crois que c'était un compositeur.
C'est pas du tout un problème.
De l'époque justement de Pierre Boulez. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Patrice Martinet. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Damien Top.
Merci
et bravo
beaucoup
pour tout ce que vous faites pour Albert Roussel. On vous retrouvera, j'espère, au mois de septembre au festival Albert Roussel. Et on va se quitter avec le tube. C'est évidemment le premier mouvement de la troisième symphonie sous la direction de Charles Munch. Ah. Charles Munch, le plus grand chef peut-être pour jouer la musique de Roussel. Ici, c'était une de ses versions de la troisième symphonie à la direction de l'orchestre L'Amoureux. Et puis donc, vous pouvez retrouver sur Internet les programmes du théâtre de l'Athénée avec tous ses spectacles musicaux au cours de la saison prochaine. Et également, je pense, chez votre libraire ou sur Internet, le livre de Damien Top, Albert Roussel, qui est paru aux éditions Bleu Nuit.
Étonnez-moi, Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis avant de retrouver Serge Laïc, tiens, encore une petite chanson de Mick Michel, chantée par Mick Michel. J'adore les paroles un peu ironiques de celle-ci. Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là.
Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Non pas que je t'aime moins près de moi, mais je t'aime encore plus quand tu n'es pas là, car je peux rêver de toi. Quand tu es loin, le temps me dure, je repense à nos discussions, tes intentions me semblent pures, je finis par te donner raison. J'idéalise notre amour, ne te trouvant que des vertus, mais lorsque tu es de retour, je comprends que parfois l'on tue. Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Non pas que je t'aime moins près de moi, mais je t'aime encore plus quand tu n'es pas là, car je peux rêver de toi. Pardon mon amour de te dire tout ça, mais viendra le jour où tu le verras. Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Non pas que je t'aime moins près de moi, mais je t'aime encore plus quand tu n'es pas là, car je peux rêver pour toi. Y a pas moyen quand nous sortons de rentrer à une heure normale. Toi tu es frais comme un gardon, moi je m'éteins et deviens pâle. Mais le matin y a plus personne, je me fais un mauvais sang fou. Papa t'en rond, toi tu ronronnes, oubliant tous tes rendez-vous. Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Non pas que je t'aime moins près de moi, mais je t'aime encore plus quand tu n'es pas là, car je peux rêver pour toi. Je t'aime encore plus quand t'es contre moi. J'ai chaud, je suis bien dans tes bras. Je ferme les yeux, tu ne parles pas, et je peux rêver de toi.
Hein, elle est bien cette chanson, moi je trouve. En tout cas, c'était Mick Michel que je vous propose de retrouver cet été, puisque nous aurons toute une série de rediffusions d'Étonnez-moi Benoît, où je vais essayer de faire ressortir voilà des voix, des personnages, des artistes que j'aime et que vous n'avez pas entendus depuis longtemps. Mais il est temps maintenant de retrouver Serge Laïc, qui va nous parler bien sûr de musique légère. Bien remis de la soirée de mardi, Serge.
Bah, écoutez, c'était superbe. J'ai rien d'autre à dire.
Bon, en tout cas, je dis musique légère parce que ça n'est pas forcément le seul sujet que vous abordez ici, mais aujourd'hui, c'est la musique légère avec Caravelli vient de nous quitter.
Et oui, Claude Vasori, alias le célèbre Caravelli, vient en effet de nous quitter à 88 ans. Et alors, aux côtés d'autres grands chefs d'orchestre, tout le monde connaît Franck Pourcel, Paul Mauriat, Raymond Lefebvre, Michel Legrand, bien sûr, il était l'un des plus connus dans le monde entier. C'est comme pianiste que Claude Vasori entre dans le métier, Claude Vasori Caravelli donc, que Claude Vasori entre dans le métier, notamment auprès du chanteur John Williams, pour lequel il signera d'ailleurs ses premiers arrangements. Et c'est alors le tout début de l'aventure, et Claude Vasori Caravelli écrira des centaines de scores pour des monstres sacrés comme Tino Rossi, Maurice Chevalier, Charles Trenet, ou encore pour Lucie Dolène, avec un superbe, je répète, superbe arrangement, signé pour un sourire en chantant.
Sous un ciel éclatant, cela suffit pour moi.
Et voilà, je la salue avec amitié, Lucie Delaine, qui nous écoute peut-être ici, évidemment, dans l'enregistrement français de Blanche-Neige. J'ai le 45 tours original dans les mains, comme toujours, avec Serge Laïc.
Et signé pour l'arrangement par Caravelli. Donc, lors de ses innombrables concerts à travers le monde, l'indicatif de Caravelli fut « Fantaisie pour cordes », une musique qu'il avait composée. Mais, écoutez bien, mais « Fantaisie pour cordes » avait failli ne jamais voir le jour. Caravelli l'explique.
J'ai écrit quelques musiques. Parmi elles, il y en a qui me plaisaient pas, dont celle-là. Je cherchais un indicatif et puis bon, j'ai pas du tout aimé le passage du milieu. Donc j'ai dit à ma épouse, à la poubelle.
Yvonne pour les intimes.
Yvonne qui m'a dit, tu le jettes pas, garde-le. Peut-être que tu trouveras le passage que tu cherches un autre jour. Et puis l'autre jour, c'est arrivé plusieurs mois plus tard. Finalement, ce morceau m'a servi d'indicatif pour tous mes concerts et tout ce que j'ai fait sur scène pendant plus de 35 ans. Alors évidemment, je l'ai adapté suivant l'époque, mais c'est le morceau de base qui sert à commencer tous mes concerts. Tout ce que je fais commence par là.
On peut dire merci à Yvonne.
Ah oui, oui, on peut, pour beaucoup d'autres choses en plus. D'avoir pu supporter un individu de mon espèce, c'est quelque chose.
Et alors, est-ce que vous avez jeté beaucoup d'autres partitions comme celle de Fantaisie pour cordes ?
Non, pas beaucoup, pas beaucoup.
C'est vrai qu'elle est bien cette fantaisie pour cordes de Caravelli, ouais. N'est-ce pas ? Elle a failli passer à la poubelle.
Voilà. Alors, pour quelle raison en 1960 Claude Vasori prend-il le pseudonyme de Caravelli ? Eh bien, c'est là que le chef d'orchestre Ray Ventura, le célèbre Ray Ventura, entre en scène, puisque c'est lui qui avait fondé la marque de disques Versailles pour laquelle Caravelli et ses violons magiques enregistrent leur premier disque. Il fallait, avec le nom Caravelli, être dans l'air du temps. Caravelli s'en souvient.
Au départ, la maison disque voulait créer un événement avec la sortie de l'avion Caravelle. Et quand Ray Ventura, parce que c'est Ray Ventura qui avait à ce moment-là la maison de disque, avait comme directeur artistique Christian Def qui cherchait un nom parce qu'il voulait que ça s'envole un peu, etc. Bon. Et Caravelli est né de Caravelle, et comme moi, mon père était italien de naissance, j'ai ajouté un i.
Thank you.
Le comédien, une musique de Jean Dréjac et Philippe Gérard, avec toujours donc l'orchestre Caravelli en 1961, Caravelli, dont nous parle ce matin Serge Laïc.
Alors, avec ses violons magiques, eh bien, Caravelli avait exploré tous les styles, passant du tango au disco, sans oublier ses disques dédiés aux musiques de Charles Dumont, Francis Lai, Paul Naref, entre autres. Ses albums orchestraux se sont vendus par millions sur les 5 continents. Et Caravelli, écoutez bien, Benoît, a même enregistré une musique que vous aimez beaucoup, composée et jouée au départ par un certain Barry White.
Vous connaissez mes points faibles,
Oui.
Mais c'est vrai qu'elle est très bonne, en
elle
fait,
est
cette
super,
version
elle est vraiment
par Caravelli du thème d'Amour Love's Theme de Barry White.
Et oui, alors à l'exemple de plusieurs chefs d'orchestre, Mantovani, Percy Faith, Frank Purcell, eh bien, l'essentiel pour Caravelli fut de trouver une sonorité particulière pour ses violons. Il explique la naissance du son Caravelli.
Ah, ça, c'est le plus difficile. Ça, c'est très technique. J'ai écouté tout ce qui se faisait à l'époque et j'ai fait l'inverse. Parce que j'ai toujours pensé que la copie, c'était la pire des choses. Donc c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à écrire mes arrangements. C'est-à-dire que les autres utilisaient les violons dans l'aigu pour que ce soit très, comment dirais-je, pas claironnant, mais très clair, très, très limpide. Et moi, je me disais, c'est ce que c'est beau. De toute façon, c'est pas la peine que je fasse ça parce que je n'y arriverai pas. C'est pas mon style. Par contre, je vais travailler le violon dans le grave, le côté chaud du violon. Vous savez, quand un Zigane vient à côté d'une table, qui joue dans l'aigu, c'est extraordinaire. Mais dès qu'il attaque les cordes graves, c'est sensuel. Alors j'ai joué là-dessus.
La corde féminine du violon.
La corde féminine du violon.
Des morceaux les plus enregistrés au monde, il doit y avoir le vol du bourdon de Rimsky-Korsakov.
Certainement.
Toutes les versions possibles et imaginables. Là, c'est donc Caravelli et son grand orchestre en 1965.
Alors, la cerise sur le gâteau, Benoît, eh bien, Caravelli l'obtient avec la musique de Laisse-moi le temps, chantée lors d'un festival au Chili en 1972 par Romuald. C'est là-bas que cette chanson retient l'attention d'un producteur américain. Et peu après, c'est le tube international quand « Laisse-moi le temps » devient tout simplement « Let me try again » chanté par un certain Frank Sinatra. Histoire fabuleuse pour Caravelli.
Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try once more. Just forgive me, or I'll die. Please let me try again.
Voilà, encore une composition française qui a traversé l'Atlantique avec bonheur. On ne sait pas toujours. Let me try again, Frank Sinatra. Bah, c'est une composition de Caravelli, Serge Laïc.
Absolument. Alors, d'ailleurs, il faut dire que l'orchestre était magnifiquement dirigé par Don Costa, qui était un des grands arrangeurs.
En 1973.
Pour Frank Sinatra. Alors, je veux dire un petit salut à Patrick Vasori, qui a été le pianiste souvent dans l'orchestre de Caravelli, c'est son fils, et à sa fille Dominique, qui sont, je crois, tous les deux à l'écoute de Étonnez-moi Benoît.
Voilà, et je tenais beaucoup à cet hommage parce que Caravelli nous a quittés tout récemment.
Oui, absolument, le 1er avril dernier.
Le 1er avril dernier. Merci pour cette chronique, Serge Laïc.
Merci Benoît.
Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annick Aumier. Aujourd'hui à la technique, Frédéric Potry avec Valentin Bobinet. Réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, entre théâtre, cinéma et musique, j'accueillerai Pierre Richard à ce micro. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique où vous avez rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.